Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie et de ce nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est un peu le calme plat en cette seconde semaine des vacances scolaires, la plupart des institutions musicales faisant relâche, mais c'est un calme de surface parce que derrière les portes des salles fermées, on travaille, on répète et on prépare de belles productions pour la semaine prochaine, notamment au Capitole où les représentations d'Idoménée, l'opéra de Mozart, commencent le 27 février. Les derniers jours du mois vont d'ailleurs donner lieu à un véritable feu d'artifice d'événements musicaux en tout genre. Pour les présenter, je peux m'appuyer encore une fois sur l'érudition de mes deux fidèles complices, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les suites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Il s'est passé en revanche pas mal de choses la semaine passée, on y revient tout de suite avec notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux, merci d'être fidèles au rendez-vous de Mélomanie. Il y a donc eu plusieurs concerts depuis notre précédent numéro. Le premier que nous allons évoquer était donné mardi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines par le trio Antaille, invité par la belle saison des Arts Renaissants. Le trio Antaille, une fratrie de musiciens exigeants, aussi renommés qu'admirés dans ce monde, un peu à part, il est vrai, des musiques baroques et anciennes. On a eu droit à un excellent concert, celui de trois orfèvres du baroque et du baroque français en particulier, Serge.
Mais oui, il y avait tout de même un peu de Jean-Sébastien Bach, comment l'éviter, mais c'était essentiellement de la musique baroque française. Il faut préciser que ce trio Antaille, c'est d'une part Jérôme Antaille à la viole de gambe, Marc Antaille à la flûte traversière, Pierre Antaille au clavecin. Et donc, ce concert qui a été présenté par Jean-Marc Andrieux, qui est le directeur artistique des Arts Renaissants, a débuté par un prélude de Couperin, le prélude du Concert Royal numéro 7, qui a placé, on peut dire, la soirée sous le signe d'une certaine élégance française. Vraiment très beau passage, qui s'est enchaîné avec la sonate numéro 7 pour flûte et basse continue de Jean-Marie Leclerc, autre grand compositeur baroque français, évidemment, qui était un violoniste célèbre en son temps. Il a privilégié, c'est vrai, dans son œuvre, le violon, mais néanmoins, sa sonate pour flûte traversière et basse continue, alors témoigne d'un grand sens de la danse en particulier. On avait l'impression, effectivement, qu'il s'agissait d'une suite de danse, en particulier avec un badinage dans l'aria et puis une vivacité extraordinaire dans l'allegro moderato final. Alors, ça, c'était Jean-Marie Leclerc. Eh bien, le concert s'est poursuivi avec Marin Marais. Alors, compositeur célèbre, célébré par un certain film jadis. Et alors, Marin Marais, c'était évidemment la viole de gambe qui était sa priorité. Et donc, les pièces pour viol de la suite en ré mineur étaient ici accompagnées uniquement par le clavecin, avec une série de mouvements, dont un qui m'a vraiment impressionné et qui est intitulé Bourrasque, où là, les deux frères déploie une vitalité, une virtuosité tout à fait impressionnante. C'était délirant, hein, avec cette expression de terreur qui est suggérée par le compositeur. Et puis avec une gigue finale dont le rythme affirmé s'avère tout aussi remarquable que la virtuosité de Bourrasque. Donc là, le changement s'est manifesté avec Johann Sebastian Bach, donc, qui a été abordé par les trois musiciens. Alors, ils l'ont abordé avec une espèce de profondeur d'un dialogue permanent entre les trois. Et il s'agissait du trio en sol majeur qui alterne un peu des échanges d'une belle vitalité avec notamment un allegro vraiment plein de sève et puis un andante rêveur. Et dans la deuxième œuvre de Bach qui était au programme, la sonate pour flûte et clavecin, les deux protagonistes rivalisent de vitalité, en particulier dans le presto final qui est vraiment impressionnant. Et puis, le programme s'achevait sur un retour à la musique française avec deux extraits de cette série de portraits que Jean-Philippe Rameau brosse de ses contemporains. Et là, il s'agissait de deux portraits. L'un, La Timide, qui est un portrait extrait du troisième concert, et La Marée, du nom du compositeur, évidemment, extrait du cinquième concert. Et là, c'était vraiment une grande diversité des caractères, avec d'une part un personnage plutôt solennel. Ça, c'était pour Marais, donc Marais apparaît comme un personnage solennel là, sous ce portrait. Et là encore, les trois musiciens se complètent admirablement, alternant à la fois la finesse d'une dentelle et puis une affirmation rythmique très soulignée. Alors l'ovation a été unanime d'un auditoire qui était plein à craquer.
Une salle qui était vraiment très bien remplie. Il y a quand même des amateurs pour cette musique à Toulouse d'une part, et puis les frères Antaï, ce sont quand même des noms, comme je le disais au début, pour la musique baroque et ancienne.
Absolument. Et donc ils ont prolongé la soirée avec deux bis, tout à fait significatifs, un prélude de François Couperin et une pièce très brillante de Jean-Marie Leclerc. Vraiment un très beau moment où tout était magnifiquement en place et puis avec l'expression qui convient.
Une belle plongée dans la musique baroque française de la fin du XVIIe, première moitié du XVIIIe siècle, donnée par ses trois frères Antaï, les trois fils du peintre, artiste, plasticien Simon Antaï.
Ils sont issus d'un milieu très artistique.
Voilà, absolument. Et leur père, les œuvres de leur père, Simon Antaï, une grande partie en tout cas, est exposée à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, dans le Tarn-et-Garonne. Je conseille d'ailleurs d'aller voir et le lieu qui est splendide, et puis bien sûr cette collection magnifique. Nous allons pouvoir réécouter le trio Antaï dans une interprétation d'une des pièces qu'ils ont jouée le 13 février à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il s'agit du troisième mouvement Sarabande de la sonate pour flûte en sol majeur de Jean-Marie Leclerc. Le troisième mouvement Sarabande de la sonate pour flûte en sol majeur de Jean-Marie Leclerc dans une version du trio Antaï, qui a donc joué cette pièce lors de son concert du 13 février à Saint-Pierre-des-Cuisines. Notez que le prochain concert de la saison des Arts Renaissants est programmé le mardi 12 mars à 20h à la basilique Saint-Cernin, où vont se produire l'ensemble Clément Jeannequin et les Sacboutiers. Nous passons maintenant du baroque à la musique symphonique en revenant sur le dernier concert en date de l'Orchestre National du Capitole. Il a été donné jeudi dernier à la Hallograin avec un programme entièrement slave, un chef tchèque et un violoncelliste norvégien. On a découvert le premier à cette occasion et l'on a retrouvé le second avec beaucoup de plaisir. Serge va nous rappeler qui étaient les deux invités de cette belle soirée.
Oui, alors, l'Orchestre National du Capitole recevait ce soir-là, pour la première fois, le chef d'orchestre tchèque, Petr Popelka, et puis retrouvait, après une longue absence, je dois dire, le grand violoncelliste norvégien, Truls Mørch, vraiment un artiste incroyable. Alors là, l'Hallograin était pleine à craquer, là aussi. Je dois dire que ce que nous a offert Truls Mørch ce soir-là, pour moi, ça marque déjà toute la saison du saut de l'excellence. Alors, pour vous dire à quel point ce violoncelliste est impressionnant, j'ai discuté à la fin du concert avec quelques musiciens du pupitre de violoncelle de l'orchestre et ils ont eu une conclusion incontournable, c'est lui le patron. Ils disent c'est le plus grand, et effectivement. Mais enfin, le concert ne commençait pas par un concerto pour violoncelle, qui en l'occurrence était le deuxième de Shostakovich, mais il s'ouvrait sur une ouverture donc, tout à fait normal. Une ouverture dont le titre Carnaval, c'est un triptyque qui s'intitule Nature, vie et amour. Et donc, cette ouverture Carnaval d'Antonin Dvorak représente le terme vie de ce triptyque. Et là, ça a été vraiment abordé par ce chef avec un dynamisme impressionnant. Il a quasiment mis le feu à l'ensemble de l'orchestre qui a déployé là les premiers tutis avec une énergie à toute épreuve. Vraiment, direction animée, expansive. Il s'adresse à chaque pupitre, à chaque musicien. Donc, vraiment impressionnant. Et puis, est arrivé sur le plateau de la halle, donc Truls Mørch, et là, qui a installé un tout autre climat, puisqu'il abordait le concerto pour violoncelle et orchestre numéro 2 de Dmitri Shostakovich, que le compositeur a dédié en 1966 à son grand ami Mstislav Rostropovitch, comme il lui avait dédié son concerto numéro 1. Mais je dois dire que ce deuxième concerto, vraiment, est d'un caractère tout à fait opposé au premier. Là, c'est d'une noirceur incroyable. Dès l'ouverture, c'est un largo d'ailleurs, initial, c'est un bouleversant solo du violoncelle qui installe, on peut dire, la tonalité tragique de toute l'œuvre. Alors là, on retrouve immédiatement la sonorité d'une insondable profondeur du grand musicien, la rondeur du timbre, l'homogénéité sur toute la tessiture. Donc, c'est déjà un prodige. Mais cette perfection instrumentale soutient surtout l'expression d'une souffrance, d'une introspection qui se traduit aussi bien par des plaintes que par de subits sursauts de révolte. Vraiment, c'est tragique d'un bout à l'autre, avec des échanges impressionnant, dramatique, avec notamment le cor solo, les bassons et les percussions qui alimentent cette émotion qui émane du premier volet. Alors, Rostropovitch déclarait à propos de ce premier mouvement, le violoncelle arrache littéralement les larmes. Et c'est tout à fait juste. Alors, le deuxième mouvement est un peu moins pessimiste puisqu'il est bâti autour d'une chanson de rue célèbre. Mais très vite, avec le final, c'est le retour au message implacable du destin. C'est vraiment complètement tragique. Et puis, l'œuvre s'achève sur un long coup d'archet décrescendo du soliste qui conduit irrémédiablement au silence. Là, la gorge se serre et j'ai pensé, malgré moi, à la dernière parole des quatre derniers leaders de Strauss, « Serait-ce déjà la mort ?» Effectivement, c'est ce que suggère cette fin. Immense succès, bien entendu, de cette exécution. Et donc, Truls Mørch a fini par prolonger l'atmosphère du concerto, avec une pièce dans le même style, exactement, mais cette fois signée Benjamin Britten, un extrait de sa suite pour violoncelle numéro 2, dédié à Mstislav Rostropovitch, décidément.
À l'époque, c'était le grand violoncelliste,
oui, le grand, donc,
sur la planète.
Son ombre a plané sur tout le concert. Et enfin, toute la seconde partie était consacrée à des extraits des suites 1, 2 et 3, du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev. Et comme cela se pratique souvent, c'est le chef d'orchestre qui choisit un certain nombre de scènes de ces suites qu'il ordonne selon leur caractère musical et pas forcément de manière chronologique. puisque ça s'achève d'ailleurs par la mort de Tybalt, et donc les passages de Montaigu et Capulet, ainsi que l'épisode Roméo sur le tombeau de Juliette, eh bien, ça figure au centre du récit. Ça n'est pas chronologique, mais musicalement, ça se défend tout à fait. Là aussi, le chef a souligné, accompagné avec passion, les interventions qu'il faut qualifier de virtuoses de chaque pupitre, chaque soliste. Et il y a vraiment de grands passages très délicats pour les solistes de l'orchestre. Et là c'était vraiment excellent, au point que ça a eu un grand succès et que le chef est allé féliciter chaleureusement chaque pupitre et chaque soliste, et avec notamment la première violon solo de la soirée qui était Jaewon Kim.
Très belle musicienne qui a été recrutée assez récemment
oui.
par l'orchestre et qui a très rapidement marqué de son empreinte ses interventions. Voici un des extraits de la suite Roméo et Juliette de Prokofiev joué par l'Orchestre National du Capitole jeudi dernier à l'Allograin. La mort de Tybalt que vous évoquiez il y a quelques minutes, Serge, dans une version dirigée par ce grand chef qui était Maris Janssens. La mort de Tybalt, extrait de la suite Roméo et Juliette de Serge Prokofiev dans une version dirigée par Maris Janssens. Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole à la Allograin, c'est bientôt, le jeudi 29 février à 20h, sous la direction et avec le violon de Roberto González Monjas. Et puis hier, lundi 19 février, la saison des Clés de Saint-Pierre nous a permis de retrouver 7 musiciens de l'Orchestre du Capitole pour un programme intitulé « Les vents insolites ». Et le mot était bien choisi parce que « insolite », ce programme d'œuvres pour instruments à vent l'était complètement, Serge.
Ah oui, absolument. Avec 4 œuvres pratiquement inconnues, jamais jouées, et 7 musiciens bien connus de l'Orchestre National du Capitole, il faut que je les nomme évidemment. Il y a à la flûte Sandrine Tilly, au hautbois Louis Seguin, à la clarinette Florian Tardy, au basson Guillaume Brun, Benoît Huy était le cor solo, Victor Guémy la clarinette basse, et c'est très rare une clarinette basse dans les ensembles.
Il n'y a que des concerts comme ça qu'on les voit.
Ah oui, exactement. Et puis Hugo Blacher à la trompette, ce qui est relativement rare aussi. Il intervenait d'ailleurs que dans une des œuvres. Et donc avec donc la démonstration d'un esprit d'équipe incroyable. Enfin, incroyable, puisqu'on les connaît, un esprit d'équipe de tout ce groupe, au sens presque sportif de l'expression. Et donc, il y avait 4 œuvres de 4 compositeurs de 4 nationalités différentes, puisque ça s'ouvrait avec une œuvre de Jean Français, alors qu'il a intitulé Sixtuor, et pas Sextuor, Sixtuor pour flûte au bois, clarinette, basson, cor et clarinette basse. Alors, une œuvre fringante, joyeuse, avec quelques repos de calme dans les deux andantes, et puis surtout du jeu. On a l'impression d'assister à un jeu de discussion entre les divers protagonistes, avec un final, vraiment, on peut dire, à la Poulenque. Hein, on a l'impression, quelquefois, d'entendre du Francis Poulenque. Ça, c'était la première œuvre, donc. La deuxième œuvre était signée de l'allemand Paul Hindemith. Alors, Hindemith, bon, c'est un tout autre caractère et un tout autre style. Et là, il s'agissait du Septuoravant en mi bémol majeur pour flûte traversière, hautbois, clarinette, clarinette basse, basson, cor et trompette. C'est là qu'intervenait la trompette d'Hugo Blacher. Alors là, c'est un très rythmé avec la trompette, mais la trompette qui se distingue un peu des autres instruments, en ce sens qu'elle reste muette pendant deux mouvements sur les cinq, et puis elle intervient, mais on a l'impression que c'est elle qui décide de ce qui doit se passer. Et donc c'est vraiment une pièce assez bizarre, assez étrange, avec une fugue pour terminer, qui est en fait une vieille marche bernoise d'une joie débridée. Donc ça, c'était Paul Hindemith. Et puis, nous avons traversé le Channel et nous nous sommes retrouvés en Angleterre avec Frank Bridge. Frank Bridge, bon, signalons...
Bridge pour traverser, c'est bien.
Oui, n'est-ce pas?
C'est bien
oui,
choisi.
Oui, bah, oui, bien sûr. Donc, il est né en 1879, mort en 1941. Alors là, l'effectif instrumental se réduisait à celui d'un quatuor. Il n'était que quatre musiciens et encore, ils ne jouaient pas tous ensemble. Ils ne jouaient que les mouvements extrêmes, le premier, prélude, et le dernier, bagatelle. Là, ils étaient tous les quatre. Et puis entre les deux, il y a un nocturne qui en fait est un duo entre le hautbois et la flûte, un duo d'un calme olympien, et puis un scherzetto entre la clarinette et le basson, qui là est vraiment un jeu, presque une dispute entre les deux. Et donc, vraiment, on avait l'impression, au final, d'une partie de cache-cache entre les quatre instrumentistes. Donc, intéressant. Et puis, ça terminait donc ce concert, ce programme, à mon avis, par la pièce la plus intense, la plus musicale, la plus incroyable. C'est l'œuvre du grand compositeur tchèque, Leoš Janáček. Bon, alors, ce sextuor pour flûte et piccolo d'ailleurs, hautbois, clarinette, cor, basson et clarinette basse, est une œuvre de la fin de sa vie. Et paradoxalement, il l'a sous-titré Mladi, qui signifie jeunesse. Donc, c'était un peu comme un clin d'œil nostalgique vers le passé. Bon, une pièce d'une beauté extraordinaire. On reconnaît immédiatement Janáček. Et alors là, on reconnaissait d'une part les harmonies sensibles qui sont celles des musiques traditionnelles et folkloriques, bien sûr, de la Bohème, mais on avait l'impression d'entendre quelques extraits de ses opéras magnifiques, en particulier de Yenoufa, qui a été donné il y a quelques années au Théâtre du Capitole. Là, vraiment, ça a été le grand moment de la soirée. Et une soirée qui a été très bien accueillie par un auditorium Saint-Pierre des Cuisines, bien plein d'ailleurs. On craignait un peu que le programme des concerts...
Au milieu des vacances en plus.
Et puis au milieu des vacances, oui. Donc, mais non, pas du tout. Finalement, il y a un public curieux à Toulouse et c'est une bonne chose. Et donc, ils ont été chaleureusement applaudis. Ils ont rejoué en bis le dernier mouvement du Sextuor, donc de Jean Français, ce Sextuor à la Francis Poulenque en quelque sorte.
Beaucoup de découvertes donc au programme de ce concert Les Vents Insolites et notamment le Septuor pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, basson, cor et trompette de Paul Hindemith. Je vous propose d'écouter son cinquième mouvement, la fugue Alter Berner March, qui doit être jouée schnell, comme l'indique la partition.
Thank you.
Le cinquième mouvement, la fugue, Alter Berner March du Septuor pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse, basson, cor et trompette de Paul Hindemith. Le dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre est programmé le lundi 6 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, bien sûr. Et il est intitulé « Romances et secrets ». Fin de cette première partie d'émission, petite virgule musicale. Et l'on se retrouve avec Serge Chosy et Robert Pénavert pour notre rubrique Agenda. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Retour à l'antenne en compagnie de Serge et Robert pour l'agenda de Mélomanie que nous allons commencer par le prochain concert du cycle des grands interprètes lundi 26 février à 20h à la Halle au Grain où se produit le Mahler Chamber Orchestra sous la direction d'un certain Tougan Sokiev, Serge. Mais qui est donc ce chef russe totalement inconnu à Toulouse?
Ah oui, c'est vrai qu'il n'est resté que 17 ans à la tête de l'Orchestre National.
Ça ne dit rien du tout, moi.
Donc vraiment, bon, effectivement, c'est le retour de Tougan, on peut dire, avec cette formation symphonique qui a été quand même fondée en 1997 par Claudio Abbado, hein, et qui en fait était le prolongement du Gustav Mahler Youth Orchestra, d'orchestre des jeunes, et qui venait de nombreux pays d'Europe. Donc c'est un orchestre qui voyage constamment et qui donne vraiment des concerts dans le monde entier. Il s'est produit dans presque toute l'Europe, une grande partie de l'Asie de l'Est, dans plusieurs pays d'Amérique, etc. Donc il participe à d'importants festivals de musique classique et c'est en fait la base du grand festival de Lucerne, qui est un très beau festival. Vraiment, j'incite les auditeurs à y aller, ça vaut vraiment le coup. D'abord, la ville de Lucerne est une merveille en Suisse et en plus, il y a vraiment un programme orchestral magnifique. Donc, des chefs très renommés comme Pierre Boulez, Daniel Egati, encore François-Xavier Roth, Marc Minkowski l'ont dirigé. Et puis, notamment, Tougan Sokiev, qui vraiment partage son temps actuellement entre le répertoire symphonique et le répertoire lyrique. Il dirige les plus grands orchestres au monde, comme l'Orchestre Philharmonique de Vienne, de Berlin, de New York, de Munich, du Concertgebouw, et puis des grands orchestres symphoniques comme ceux de Boston, Chicago, bref, les plus grandes phalanges internationales. Et là, il revient à Toulouse avec un jeune violoncelliste, un musicien d'origine persane, mais qui est né à Brest en Autriche, et qui s'appelle Kian Zoltani. Et il a commencé à jouer du violoncelle à l'âge de 4 ans. Et donc, il a été choisi quand même comme boursier de la fondation Anne-Sophie Mutter en 2014. Hein. Bon, comme il est né en 92, c'est vraiment un tout jeune musicien. Hein. Et donc, il a remporté plusieurs concours, notamment le concours international de violoncelle à Helsinki. Et puis, le célèbre prix Leonard Bernstein en Allemagne. Et ça, c'était en février 2017. Eh bien, il fait de nombreuses apparitions dans les festivals. Et ce soir-là, le soir donc du 26 février, il sera le soliste du concerto pour violoncelle et orchestre de Dvorak, concerto héroïque, très beau concerto, qui lui sera précédé eh bien, par une œuvre de Claude Debussy. Donc, Tougan Sokiev se souvient de son passage à Toulouse et il va diriger le prélude de l'après-midi d'un faune avant ce concerto pour violoncelle de Dvorak. Et puis, pour terminer le concert, eh bien, nous retrouvons...
J'allais le dire, oui. Les hasards de la programmation.
Ah oui, complètement. Nous retrouvons des extraits des suites de Roméo et Juliette de Prokofiev et probablement avec un ordre différent de celui qui a
oui,
précédé
voilà,
ça,
il y aura,
au concert
précédent.
Je pense
tout de même quelques petites variations par rapport à ce qu'on vient d'entendre le 15 février avec l'Orchestre du Capitole.
Mais ce seront quand même...
Il y aura sans doute les standards.
Oui, les grands
standards.
La danse
des chevaliers, la mort de Tybalt, ça y sera très probablement.
Voilà, d'autant plus que ça occupera là aussi toute la seconde partie du concert. Bon, un concert intéressant, varié,
très ouvert, beau programme, hein. Et puis la découverte de ce Mahler Chamber Orchestra.
Ah oui. C'est vraiment, je crois, un très bel orchestre. Dans ses enregistrements, ça transparaît, évidemment, mais rien ne vaut le direct. Hein.
Voilà. On va pouvoir découvrir, non pas le Mahler Chamber Orchestra, mais le violoncelle de Kian Zoltani dans le concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur d'Antonin Dvorak. Il joue ici son troisième mouvement, le final, Allegro Moderato, accompagné par la Staatskapelle Berlin, dirigée par Daniel Barenboim.
Thank you.
Le troisième mouvement, le final Allegro Moderato du concerto pour violoncelle et orchestre en si mineur de Dvorak, interprété par Kian Soltani, accompagné par la Staatskapelle Berlin sous la direction de Daniel Barenboim. Mais c'est donc le Mahler Chamber Orchestra dirigé par Tugan Sokiev qui accompagne le jeune violoncelliste austro-iranien lundi 26 février à la Lohgrin pour ce concert du cycle des grands interprètes qui commencera à 20h. Je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, 3 semaines seulement après la dernière représentation de La Femme sans ombre de Richard Strauss. Idoménée est déjà à l'affiche de l'Opéra National du Capitole, et ce pour 5 représentations du 27 février au 7 mars, un opéra très important qui marque un tournant dans l'œuvre lyrique de Mozart. C'est une nouvelle production, avec une prise de rôle en ce qui concerne le personnage d'Ilia et quelques autres particularités, que Robert Pédavert va se faire un plaisir de nous révéler. Peut-être un petit rappel au préalable, comme d'habitude. À quand remonte la première et la dernière représentation d'Idoménée au Capitole?
Je pense que c'était la première et la première représentation. C'était l'entrée au répertoire. C'était il y a un quart de siècle, hein, très exactement en avril 2000.
Et 24 ans.
À cette occasion-là, nous avions découvert un ténor sud-africain qui s'appelle Kobe Van Rensburg, qui avait été un Idoménée absolument renversant, fabuleux. Et puis qui a un peu disparu, et pas mort, grâce au ciel, mais il a un peu disparu des grands circuits auxquels appartient le Théâtre du Capitole. Et donc, on ne l'a pas revu. Mais voilà, moi, le souvenir que j'ai de cette entrée au répertoire, c'est ce ténor. Voilà. Alors, cette année, donc, il n'y a pratiquement que des prises de rôle, mis à part le rôle-titre d'Idoménée, qui est tenu par un Japonais. Non, un Américain, pardon, autant pour moi.
Le nom sonne japonais, effectivement, il est bien voilà. Américain.
Il y a Yann Koziara, qui a un répertoire d'ailleurs un peu de grand lyrique, voire de... pas El Dentenor, mais pas loin. Il chante Fidelio, il chante le Freischutz, il chante des choses un peu Lohengrin, enfin, il chante des choses un peu héroïques. Mais bon, j'imagine, c'est un ténor que je ne connais pas. Tu connais Serge?
Non, pas du tout. Non.
Spécialiste du rôle tout de même.
Oui, c'est un spécialiste du rôle, donc on va le découvrir évidemment avec beaucoup de plaisir. Tous les autres rôles sont en prise de rôle. Et c'est extraordinaire parce que nous retrouvons Marie Perbost. Vous savez, chez nous, elle a été Musette, elle a été, enfin, vous le savez, Pamina également.
La pétulante Marie Perbost.
Marie Perbost, je me souviens d'un récital qui s'était transformé en stand-up un peu coquin.
Oui, parce qu'elle a une personnalité.
Un peu coquin, faut-il dire.
Oui.
Voilà.
Assez volcanique.
En particulier les dernières chansons. Voilà, je me souviens d'une certaine tour Eiffel à vous faire rougir jusqu'en haut des oreilles. Et non, mais ça avait été un moment absolument extraordinaire. Donc Marie Perbost qui prend ce rôle d'Ilia, qui est certainement l'un des plus grands rôles. Elle a chanté également dans la reprise de Platé, elle faisait la folie. Et on s'en souvient, avec sa tête absolument impossible, avec une guitare électrique complètement déchaînée sur scène, c'était absolument incroyable. Donc, mais Marie Perbost, c'est ça, Marie Perbost, c'est une bête de scène, très clairement. Oui. C'est pas une bête de studio. Elle, ce qu'elle veut, c'est de la dimension dramatique sur scène, voire comique, évidemment. Voilà, pour Ilia, la dimension comique, évidemment, elle ne l'aura pas, parce que c'est vraiment un opéra très sérieux, où il n'y a pas beaucoup de passages où l'on peut respirer.
Non.
Voilà, mais bon, j'imagine qu'elle va franchir ce cap avec tout son professionnalisme. Alors, c'est la version de 86, et donc vous savez que la première version de cette Idoménée, qui a été commandé à Mozart. Et c'était pour Munich et on l'avait obligé à accepter une certaine distribution qui n'était pas forcément intégralement de grande qualité. Et en particulier, on lui avait imposé un castrat pour chanter Idamante, qui était un castrat un peu en fin de carrière. Voilà, c'est pour ça qu'en 1986, lorsque ça a été donné à Vienne, il n'avait plus les contraintes de Munich. Et donc, Mozart s'est empressé de réécrire le rôle d'Idamante pour un ténor. Parce que dans l'idée de Mozart, Idamante est un ténor, c'est normal, c'est un homme. Voilà, il n'y a pas de raison. Alors ensuite, il y a une certaine forme de retour à l'antique, si l'on peut dire, et donc des musicologues ont pensé que pour retrouver la voix du castrat que ne voulait pas Mozart, entre parenthèses, on va confier le rôle d'Idamante à un mezzo-soprano. Et donc, dans de nombreux enregistrements, dans pas mal de représentations, Serge, tu en as vu moi,
absolument.
Où c'était une mezzo-soprano qui n'a aucun sens, évidemment, dans ce rôle-là, tel que l'a voulu Mozart, de toute évidence. Bon, et Christophe Gristy a décidé que c'était la version de 1786, dont la version de Vienne, et il a confié ce rôle à Cyril Dubois.
Formidable.
Je ne vois pas à qui d'autre il aurait pu le confier.
Oui, excellente idée. Bien sûr.
Ouais, c'est une très bonne idée. Il en a tout. Il a la fraîcheur du timbre, la musicalité, la délicatesse, l'élégance. Bon, je ne parle pas de physique, mais bien évidemment, mais bon, c'est un homme. Voilà, moi, je pense qu'il va être certainement l'une des grandes, entre guillemets, attractions.
On ne peut pas parler de révélation parce qu'on connaît sa qualité.
Cela dit, c'est une prise de rôle pour lui aussi.
Oui, bien sûr.
Une prise de rôle
mais
pour lui.
Bon, Cyril Dubois, on connaît sa valeur maintenant depuis quelques années.
Voilà, voilà. Donc ça, c'était vraiment très bonne idée. Christophe Gristy, bravo. Electra, c'est l'Electra, c'est la même que celle de Strauss. Hein. C'est Andrea Soare qu'on a vu à maintes et maintes reprises et qui a les airs héroïques du féminin. De cet opéra en charge. Et moi, j'imagine que ça ne devrait pas lui poser beaucoup de problèmes. Dans le rôle un peu effacé, il faut le reconnaître, du confident Arbatsch, nous allons retrouver le deuxième ténor des dernières reprises du Barbier de Séville, le jeune ténor tchèque Peter Nekoranech. Alors, bonne nouvelle, alors qu'en principe, et même dans pas mal d'enregistrements, le rôle est un peu sacrifié. C'est-à-dire, normalement, il a deux airs. Normalement, on lui en donne qu'un et encore sans le récitatif du deuxième. Or, en fait, le récitatif du deuxième est extrêmement important. Non seulement les récitatifs, et donc on aura peut-être le temps de l'évoquer, parce que cet opéra est en fait un laboratoire pour
Mozart.
Oui,
c'est pour ça que je disais qu'il est très important dans son œuvre lyrique.
Voilà, tout à fait, Eric. Vous avez parfaitement raison de le souligner. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y aura un continuo composé, donc c'est Miles Clairifoix, évidemment, qui sera au clavier, et il y aura un violoncelliste, qui n'est pas de l'orchestre, mais dont j'imagine un très bon violoncelliste aussi, hein, qui assurera le double continuum. Voilà. Donc, parce que pour le chef d'orchestre, Michele Spotti, c'est extrêmement important de souligner les récitatifs de cet opéra, qu'il soit sec ou accompagné. C'est extrêmement important d'y porter une lumière mais flamboyante, parce qu'en fait, dans ces opéras, toute la chair, tout le sang de cet opéra se trouve dans les récitatifs. Absolument tous. Et quand je parlais du récitatif du deuxième air d'Arbatsch, si vous l'écoutez bien, si vous écoutez les paroles, il nous dit quoi? Il nous dit exactement ce que nous raconte le récitatif du Castadiva de la Norma. C'est plus Rome, c'est Sidon, mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc c'est un récitatif très important et j'ai appris...
Il ne faut pas le sacrifier et il faut le mettre en valeur, en lumière.
Voilà, exactement. Ensuite, donc, nous avons un autre ténor, parce que c'est un opéra à quatre ténors.
C'est ce que j'allais dire, c'est vrai. C'est rare quand même d'avoir autant de ténors sur scène.
Casimir Spica. Alors, lui, franchement, je ne le connais pas. Tu le connais, Serge, l'autre?
Mais ce sera une découverte.
Voilà, ça va être la découverte. Autre chose très importante qui fait partie du laboratoire. Deux choses importantes. Premièrement, le chœur. Le chœur est fondamental. C'est le premier rôle d'Idoménée, le chœur.
Oui.
Et donc, Christophe Gristy a décidé... non pas pour une question de qualité, bien évidemment, mais il a décidé de confier cette partie-là au cœur de Joël Subiette que nous connaissons, dont les éléments...
Les éléments qu'on va retrouver peu, sur la scène du Capitole.
Qui est un peu un cœur habitué à ce répertoire.
Oui, tout à fait.
Un cœur de chambre. Hein.
Un cœur de chambre, ouais. Voilà. Et donc ça aussi, c'est encore, je trouve, une très bonne idée. Autre chose, vous le savez, lorsque Mozart a eu cette commande pour Munich. À Munich, pour des raisons politiques sur lesquelles on ne s'étendra pas, Munich venait de récupérer l'orchestre de Mannheim, qui était à cette époque-là le plus grand orchestre d'Europe.
Oui.
Voilà. Et du coup, Café Mozart, il s'est dit, puisque j'ai ça, je vais écrire beaucoup de choses pour l'orchestre. Et en fait, cet opéra est un opéra symphonique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orchestres, et un orchestre d'une richesse, d'une qualité, d'une puissance absolument extraordinaire. Là aussi, comme dans les récitatifs, la chair, le sang, l'émotion de cet opéra est aussi dans le chant des solistes, bien évidemment, mais également dans l'orchestre.
Mais on dit que chez Mozart, dans ses symphonies, il y a de l'opéra, et dans son opéra, il y a de la symphonie. Alors,
oui.
Où est la frontière?
Et particulièrement,
c'est du Mozart.
Particulièrement dans celui-ci.
Oui.
Alors, évidemment, c'est un opéra qui n'est pas souvent à l'affiche.
Et non.
Ça, c'est vrai, parce que, c'est un opéra difficile à monter, très délicat, c'est une dentelle, finalement, cet opéra, avait un rôle-titre quand même, idoménée, qui a des airs, d'ailleurs, le grand air Fuadelmar, très souvent est coupé, parce que normalement, il est beaucoup plus long que ce qu'on entend. Donc, il est un peu difficile trouver également un chef d'orchestre, trouver un chœur, trouver une production, trouver... Voilà. Alors, la production, justement...
Oui, je parlais des particularités de cette nouvelle
d'Aix-en-Provence.
Production.
Voilà, puisque c'est un spectacle en coproduction avec le festival d'Aix-en-Provence. Alors, voilà tout à l'heure pourquoi je faisais un petit lapsus avec le Japon. Parce que le metteur en scène s'appelle
Satoshi
Miyagi, qui est bien connu.
Miyagi.
Enfin, qui est bien connu, voilà.
Chez lui,
Oui.
Serge, en fait, quand même.
Connu au Japon, excusez-moi.
Ah oui.
On aimerait bien, nous, être connu au Japon.
Voilà. Donc,
alors, c'est décrit, cette mise en scène, comme la rencontre de la Grèce antique et du Japon moderne. Alors,
voilà, puisque ça se passe après la guerre de
39-45. Oui.
J'ai lu, je ne vous cache pas, que j'ai lu une note d'intention du metteur en scène qui était dans le programme de salle d'Aix-en-Provence. Alors effectivement, pour les Japonais, alors je parle là malheureusement de la vraie vérité, les soldats japonais qui étaient morts lors de la guerre de 39-45 s'imaginaient qu'ils allaient retrouver leur empereur, qui serait mort également. Or, on sait bien que l'empereur, il était plus ou moins à l'abri, il n'est pas mort au moment de la guerre. Alors, il y a une espèce de tragédie...
Il a vécu très longtemps après.
Oui, il y a une espèce de tragédie antique qui se retrouve.
Oui.
Alors, la mise en scène est un peu compliquée à suivre.
N'en parlez pas trop, parce qu'il faut laisser la curiosité agir.
Écoutez, je vous laisse découvrir, et puis ensuite, si vous voulez, nous en reparlons.
Lorsque nous l'aurons vu, la première représentation aura eu lieu.
Voilà.
Alors donc, c'est Yann Kodziara, l'Américain qui a un nom qui sonne japonais, mais il n'est pas du tout typé japonais, d'ailleurs.
Non, pas du tout. Il fait plutôt norvégien.
Oui, effectivement, il fait plutôt nordique, qui est donc un spécialiste du rôle dénominé, ce qui nous permet de l'écouter maintenant dans un extrait de l'air dont vous venez de parler, Fuadelmar. C'est vers le début de l'acte 2.
Sentimenti per il prence sarebber forse, ahimè, sentimenti d'amor, gioia di sfere. Non m'inganna reciproco l'amore, troppo qui davanti a sor quelle catene sollecito tu fosti ecco il delitto che te unisce il ciel si sia Nettuno il figlio il padre e l'Ida le vittime saranno sulla rai stessa dai gol dolore afflitte una dal ferro e due dal duol trafitte
Fuor del Mar, air de l'acte 2 d'Idoménée, chanté par Jan Kozziara, qui tient le rôle-titre de l'opéra de Mozart à l'Opéra National du Capitole lors de 5 représentations, programmées du 27 février au 7 mars. Inutile de préciser qu'il faut se dépêcher pour réserver ses places. Je vous ai dit que l'actualité musicale était très chargée fin février, et en particulier à l'Opéra National du Capitole, puisque dès le lendemain de la première d'Idoménée, il y a un très beau récital le mercredi 28 février à 20h, avec, et c'est rare, un duo de chanteurs, la mezzo-soprano Karine Dehaye et le baryton Florian Sempé, Robert.
Voilà, donc ils viennent tous les deux. Florian Sempé était venu dernièrement dans Le Barbier de Séville, il faisait Figaro évidemment, Le Barbier de Séville de Rossini, voilà. Et Karine Dehaye était venue dans autre chose, était venue dans Adalgise, lors des dernières reprises de Norma. Alors, pour la petite histoire, Karine Dehaye chante sa première Norma à Strasbourg au mois de juin, et puis elle entame une tournée de Norma. Elle a chanté Norma, je crois, aux quatre coins de l'Hexagone et ailleurs, je crois. Bon, enfin, voilà. Donc, alors, mezzo-soprano, soprano, bon, j'ai jamais trop su vers quelle tessiture, finalement.
Bah, elle est dans une espèce d'entre-deux, dirait-on.
Elle est entre deux. Alors, cela dit, pour ce récital, c'est carrément une tessiture de mezzo,
oui,
voire mezzo.
C'est ce qui est annoncé.
Mezzo contralto.
Oui, oui.
Il ne faut pas oublier les gens qui ont créé tous ces rôles-là. Depuis Cenerentola jusqu'à Rosine du Barbier de Séville, jusqu'à l'Italienne à Alger. Bon, alors évidemment, on peut toujours, c'est dans l'opéra belcantiste, on peut toujours transposer, on peut toujours faire à peu près. Mais enfin, il est quand même question d'une couleur, malgré tout. Et donc, ben, on va voir un peu. Hein. Alors, tous les deux, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors,
ils sont... C'est un programme Rossini.
Entièrement Rossini. Voilà. Ils seront entièrement accompagnés au piano par Daniela Pellegrino. Et donc, ça sera un répertoire en partie français, en partie italien, parce que Rossini a écrit des textes en français.
Et puis, il a vécu à Paris quand même une bonne partie de sa vie sur la fin.
Voilà, voilà. Et donc, en particulier, des extraits, on va entendre de ses péchés de vieillesse. Hein,
oui.
Et donc, dont certains en français, ceux qui appartiennent à l'album français, évidemment, et d'autres en italien. Alors, bon...
Mais là aussi, il y a des curiosités tout de même, parce qu'on pourrait se dire un programme Rossini, il va y avoir les grands airs d'opéra que tout le monde connaît, mais non, c'est
non.
Beaucoup plus intéressant que ça, si je puis dire.
Voilà, donc il y a des mélodies, ce sera Karine Dehaye qui chantera une ariette espagnole, en espagnol, bien évidemment, ça s'appelle à Grenade, et puis canzonetta espagnole, également Karine Dehaye. Bon, enfin, bon, il y a tout un tas de choses, mais pour en venir à l'opéra qui sera quand même, malgré tout...
Le plat de résistance.
Le plat de résistance, voilà. Il y aura le Nakuya à la fan, évidemment, de la scène finale, le rondo de la scène finale de Cenerentola. Ensuite, il y aura... l'aria de Germano de la Scala di Seta. Alors ça, évidemment, c'est Florian Sempé qui l'aura en charge. Ensuite, quelque chose de redoutable aussi à chanter, c'est le Bel Raggio Lusinger, c'est la cavatine de Semiramide de l'opéra éponyme de Rossini. Il y aura évidemment, on ne pouvait pas y échapper, et pourquoi pas, le Largo al Factotum de
l'air de Figaro dans Séville.
Et il termine le programme officiel. J'imagine.
Oui, il y aura sans doute des bis. Au moins deux, un chacun et un ensemble. Enfin, il y en aura trois.
Ils terminent avec un morceau sur lequel, j'imagine, ils vont montrer tout leur talent scénique. C'est le duo entre Isabella et Taddeo de l'italienne Alger, Al Capricci della Sorte. C'est le duo dans lequel ils se disputent tous les deux parce que Taddeo est amoureux d'Isabelle. Isabelle, pas trop, il faut reconnaître, mais ils finissent par se disputer. Puis très rapidement, ils comprennent que quand même, ils sont un peu isolés en Algérie. Ils ont besoin de se soutenir l'un l'autre, malgré tout. Donc c'est un duo profondément comique, bien sûr.
Programme Rossini, programme avec des bonbons, mais aussi avec des petites choses qu'on n'est pas habitué à entendre, donc il ne faut pas rater ça. Dernier extrait de cette émission et extrait du programme du récital que donnent Karine Dehaye et Florian Sempé à l'Opéra National du Capitole le 28 février. Bon, j'ai pas fait très original, je le reconnais. Largo al Factotum, le fameux air de Figaro dans le Barbier de Séville, chanté par Florian Sempé. Thank you. L'Argo al factotum célébraire de Figaro dans le Barbier de Séville, chanté par Florian Sempey, une des pièces au programme du récital que donne le baryton aux côtés de Karine Dehaye, mercredi 28 février à 20h à l'Opéra National du Capitole, un récital entièrement dédié à Gioachino Rossini, durant lequel les deux chanteurs sont accompagnés par la pianiste Daniela Pellegrino. Les places sont à réserver et acheter en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. C'est sur ce même site que la billetterie est en ligne pour les représentations de la nouvelle production d'Idoménée, à découvrir au Capitole du 27 février au 7 mars dans une mise en scène de Satoshi Miyagi avec le chœur de chambre Les Éléments et les musiciens de l'orchestre du Capitole dirigé par Michele Spotti, et pour le concert du Mahler Chamber Orchestra dirigé par Tugan Sokiev avec le violoncelliste Kian Soltani en soliste, lundi 26 février à 20h à la Halle aux Grains. Je vous invite à acheter et réserver vos places sur le site www.grandsinterprètes.com. Je remercie une nouvelle fois mes amis Serge Ozy et Robert Pénavert de m'avoir aidé à co-animer cette émission. Merci également à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à tous nos auditeurs pour leur écoute fidèle chaque mardi et mercredi. Excellente semaine musicale à tous. À bientôt.